voix nue. Toute cette semaine, Emmanuel Laurentin rencontre Jacques Revel. Ce soir, quelle histoire ?
Jacques Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le premier volet de cette voix nue, nous avons compris hier combien la formation que vous avez reçue dans les années 60 à l'École normale supérieure était riche, était variée, et comment finalement, au milieu de cette richesse de propositions, vous aviez choisi l'histoire. Mais lorsqu'on obtient l'agrégation d'histoire à la fin des années 60, comme vous, on peut se demander vers quelle histoire on doit se tourner. Doit-on continuer l'histoire économique et sociale, telle qu'elle a été défendue depuis longtemps maintenant par l'École des Annales, ou bien se laisser bousculer, on est en plein dans les années 60 et dans les années 70 d'après mai 68, par de nouvelles approches qui peuvent être incarnées par des sauts de frontières comme Michel Foucault ou encore Michel de Certeau. Dans l'entretien d'aujourd'hui, je vous propose que nous tentions de rendre justement la multiplicité des possibles de l'histoire pendant ces années 60 et ces années 70, ce foisonnement qui était marqué par la traîne de mai 68 en Europe et par les conséquences qu'un chercheur comme vous va en tirer. Alors vous nous disiez en fin d'émission hier combien il y avait deux types d'historiens, selon vous, qui étaient soit des nostalgiques, des amoureux des morts, qui voulaient ressusciter les morts, nostalgiques de certaines périodes qu'ils aimaient et pour lesquelles l'émotion était très forte, et puis d'autres qui étaient des mécanos. Vous devenez donc un mécano de l'histoire dans cette fin d'année 60, et vous allez partir pour Rome, pour l'École française de Rome, mais avant même, vous avez des choix à faire. Dans ce qui est offert à un étudiant en histoire, il y a Braudel, la Méditerranée, les systèmes liés à l'œuvre de Braudel et en particulier à l'École des Annales. Et puis de l'autre côté, toujours dans cette École des Annales, il y a Labrousse et son histoire économique en particulier. Vous allez choisir comment l'un ou l'autre des deux camps, en l'occurrence ?
À vrai dire, pour changer, je n'ai pas choisi. C'était quand même une grande mouvance. Alors, quand on approfondissait un peu les choses, et ça allait assez vite, on voyait bien que le projet de Braudel et le projet de Labrousse n'étaient pas de même nature. Pas de même nature non plus le type d'influence qu'ils pouvaient exercer. Nous avons tous lu avec émerveillement la Méditerranée, ce livre fleuve, où on se laisse, comme c'est souvent le cas chez les jeunes gens, portés par aussi la puissance de l'imagination, la force rhétorique,
l'écriture
et une tentative de mise en forme d'une énorme matière, de façon qui était totalement inattendue. Mais d'une certaine manière, ça pouvait pas être un modèle, parce que c'était trop intimidant. Pierre Chaunu l'a fait.
Séville et l'Atlantique.
Séville et l'Atlantique, Frédéric Moreau l'a fait. D'autres y ont rêvé, comme Pierre Janin, qui a longtemps travaillé sur le monde du Nord, la mer du Nord et la Baltique. Mais personne n'est arrivé à la hauteur du modèle, de ce qui apparaissait à l'époque comme un modèle. Ernest Labrousse, c'était très différent. Ernest Labrousse était professeur en Sorbonne. Il faisait des cours ouverts à tous. Il a formé l'essentiel de la génération au-dessus de la mienne.
Michel Perrault, Alain Corbin.
François Furet. Emmanuel Leroy Ladurie,
Régine Robin et d'autres.
Et beaucoup d'autres, et Agulon. Et... Bon, c'est l'homme par lequel à peu près tout le monde est passé et dans lequel beaucoup de gens se sont reconnus. Alors, là aussi, il y avait un type de rhétorique démonstrative très différente de celle de Braudel, mais puissante. On peut pas lire du Labrousse sans entendre sa voix métallique énoncer la manière dont on pouvait travailler et dont celui-là il fallait penser. Mais il proposait aussi un modèle reproductible. C'est-à-dire, contrairement à Braudel, dont l'œuvre nous intimidait, des schémas analytiques, une méthodologie que l'on pouvait appliquer. Et c'est ce qui explique aussi le succès du labroussisme. Au fond, il proposait un standard de recherche que beaucoup de gens ont pris au sérieux, et moi aussi.
D'histoire économique en particulier.
Alors, d'histoire économique, pas seulement.
Et sociale.
Labrousse, au départ, est un historien économiste, mais qui a très vite élargi le champ. Et au fond, ce qui nous séduisait derrière, et ce qui apparaissait à l'époque comme l'horizon provisoirement indépassable de la méthodologie historique, c'était la quantification ouverte très rapidement sur ce qu'on a appelé l'histoire sérielle. C'est-à-dire donc l'idée de travailler sur des données mesurables et permettant de suivre l'évolution de phénomènes à travers des indices choisis.
Donc des tableaux, il faut rappeler qu'à l'époque l'ordinateur n'existait pas encore et que l'on faisait tout cela à la main, on dépouillait des centaines de liasses d'archives sur un thème donné et on essayait d'établir le prix du grain, le prix de l'évolution du prix du vin, les rapports aussi peut-être qu'il pouvait y avoir entre des émeutes frumentaires par exemple et l'augmentation du prix, c'est-à-dire de faire le lien entre l'économique et le social à travers ce travail d'Ernest Labrousse.
Alors tout ça, c'est devenu ce qu'on a appelé effectivement l'intitulé universitaire. C'était histoire économique et sociale, un syntagme très souvent répété. En fait, le projet était celui d'une histoire sociale dont au même moment, quelqu'un comme François Furet a montré ce qu'elle apportait. Hein. Il y a un article de 1971, si je me souviens bien, publié dans les annales, sur l'histoire quantitative, qui résumait très bien, tout le monde a oublié que Furet avait été, dans ses jeunes années, un quantitativiste convaincu, les bénéfices de l'opération. Pourquoi c'était important? Parce que l'histoire quantitative vous obligeait à définir un objet, à choisir les indices à partir desquels vous caractérisiez, vous étudiez cet objet, et à produire des régularités ou à montrer des ruptures. Pas un programme entièrement nouveau. C'est celui que le sociologue François Simian avait énoncé en 1903 à l'intention des historiens en leur expliquant que si l'histoire voulait devenir une science sociale, entendons une science sociale comme la sociologie durkheimienne dont il relevait, et bien c'est par là qu'il fallait en passer et que sans cela, sans ces opérations, pas de science. Donc je suis devenu un historien quantitativiste. Je suis parti en Italie, à Rome, vous l'avez dit, et j'ai étudié des phénomènes. Bon, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont une ville et sa province, le Latium, entraient dans le sous-développement ou dans le non-développement entre le XVIe et XVIIIe siècle. Donc je suis allé aux archives, j'ai commencé à ramasser des chiffres et on faisait à l'époque nos calculs. Il n'y avait pas de calculette. Labrousse avait travaillé avec un crayon et du papier et moi et mon ami Maurice Aymard, je me rappelle, on travaillait sur une machine à calculer d'épicier qui mettait 40 secondes pour faire des divisions à 8 chiffres ou des choses comme ça. Et on recueillait le résultat sur des bandes de papier comme dans le commerce. Bon, ça peut paraître archaïque. Il reste que le modèle opératoire qui était derrière cette méthodologie nous a appris le métier. Ou plutôt, nous a appris une version du métier.
La méthode.
Qui était celle qui, à l'époque, nous paraissait nous paraissait indépassable.
Oui, parce que effectivement, ce qu'avait dit François Simian en 1903, c'est qu'il fallait adopter une méthode et que comme cela, l'historien deviendrait, à la hauteur d'une autre science sociale que pouvait être la sociologie, deviendrait un vrai scientifique. Et il y avait cette croyance en la scientificité l'histoire dans ces années 60 et au tout début des années 70. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet héritage de la brousse, beaucoup s'en sont écartés assez rapidement, et vous-même d'une certaine façon, Jacques Revel, c'est-à-dire que vous avez été formé à cette méthode, comme Alain Corbin, qui deviendra effectivement celui qui va s'intéresser à l'histoire des sons, à l'histoire des émotions, comme Michel Perrault, qui s'intéressera à la question des greffes, puis ensuite à l'histoire des femmes. Cette base, pourrait-on dire, historique, vous servait d'une certaine façon à vous en échapper ensuite, une fois que vous aviez maîtrisé le code, la méthode, comme on vous le demandait au départ, Jacques Revel.
Ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps, d'ailleurs, pour tout le monde, parce que la sortie du labroussisme, elle a été lente et elle a pris des formes non brutales. Je dirais, le premier livre qui a rompu avec le labroussisme, c'est-à-dire qui a proposé des schémas plus complexes et beaucoup plus riche, ça a été la thèse de Jean-Claude Perrault sur Caen. C'est le milieu des années 70. Que pas tant de gens ont lu.
Non.
Ce qui veut dire que l'empreinte labroussienne, qui a été une empreinte extrêmement productive, à laquelle ce que nous savons des sociétés, disons, modernes et du 19e siècle, doit énormément, cette empreinte a été durable. Pourquoi ? Ben parce qu'il y avait à l'époque une conviction positive extrêmement forte.
Qui tenait à quoi ?
Qui tenait au fait que nous pensions avoir en main un instrument de connaissance inaltérable, sans concurrent, et que nous avions confiance à la fois dans la scientificité des sciences sociales, et de l'histoire, qui de droit en était une, que nous étions convaincus aussi que l'histoire était une discipline cumulative. C'est-à-dire que chacun d'entre nous produisait une ou plusieurs briques d'un mur dont personne ne savait à quoi il ressemblerait, mais à la fin il y aurait un mur.
Cette période des années 70 et du début des années 70, Jacques Revel, c'est aussi une période où vous voyez arriver des textes qui choquent aussi peut-être les historiens, et en particulier le « Comment on écrit l'histoire » de Paul Venn, que vous qualifiez quelque part, je crois, de pamphlet ravageur en 1971, qui met à mal cette idée justement très positive d'un savoir cumulatif que vous nous décrivez comme étant celui que vous aviez épousé à ce moment-là, Jacques Revel.
Oui, peu de textes. Le texte de Venn est une pièce unique, si je peux dire, que nous avons tous, presque tous, très mal reçu. Parce qu'il allait au rebours de nos convictions les moins discutées, et que, au fond, de manière féroce, il mettait en cause les bases mêmes d'une histoire scientifique. Alors, Venn, dans ce livre, pousse le bouchon très loin, puisque, en gros, la thèse du livre, c'est que ce qui définit les genres historiques, c'est leur capacité à raconter une histoire de manière crédible et convaincante, et que toute autre prétention est indue. Sur le moment, c'est un livre que nous n'avons pas compris, probablement parce que nous ne l'avons pas lu sérieusement. D'abord parce qu'il mobilisait des références qui étaient totalement extérieures à ce que nous connaissions, et en particulier du côté de la philosophie analytique anglo-saxonne, monde inconnu à l'époque, mais aussi parce que il avait un type d'argumentation qui était hors champ. Et au fond, Venn, nous ne l'avons compris, et pour une part intégré à notre propre réflexion, que 20 ou 25 ans plus tard, dans les années 90, lorsque le paysage historiographique avait totalement changé. Donc, sur le moment, oui, c'était un pamphlet. La seule personne qui a réellement suivi Paul Venn avec enthousiasme, c'est Raymond Aron, qui retrouvait une version mise à jour, et probablement aussi moins profonde, des thèses que lui-même avait défendues 30 ans plus tôt.
Et vous disiez à propos de Paul Venn que c'était une sorte d'objet unique dans ces années-là, mais il y avait tout de même des choses qui travaillaient l'histoire et les historiens. Si on prend l'exemple de quelqu'un avec qui vous allez travailler tout de suite, au début des années 70, à savoir Michel de Certeau. Michel de Certeau, psychanalyste et historien, jésuite et historien, Michel de Certeau, en 68, écrit dans la prise de parole à propos de ce qui s'est passé en 68, qu'un événement, ça n'est pas ce qu'on peut voir ou savoir de lui, mais ce qu'il devient, et d'abord pour nous, dit-il. Et en 70, quand il écrit sur la possession de Loudun, il dit que l'histoire n'est jamais sûre. Donc d'une certaine façon, il y a quelque chose comme une sorte de tremblement sur les bases positives ou scientifiques de l'histoire qui commence à se faire jour de façon peut-être un peu, ou des sortes de petites failles, de façon un peu émiettée, mais tout de même un peu présente, Jacques Revel.
Oui, alors il y a dans la pensée, dans l'œuvre de Certeau, plusieurs aspects. J'ai rencontré Certeau en 67. C'est une époque où on travaillait beaucoup par petits groupes et dans cette géographie des groupes de travail, pour des raisons qui ne me sont toujours pas claires, les jésuites tenaient un grand rôle. Moi, j'ai participé pendant 3 ans ou 4 ans à un groupe de lecture de la phénoménologie de l'esprit de Hegel autour d'un jésuite qui avait pas mal d'années de plus que nous et surtout une grande avance sur le texte. Et toutes les semaines, on lisait 3-4 pages et il nous les commentait, on discutait, etc. C'est par là que j'ai connu Certeau, que nous nous sommes liés. Alors, Certeau, il était parfaitement au courant des formes dominantes de l'historiographie, et c'est probablement celui, ou l'un de ceux qui a écrit les choses les plus profondes sur ce qu'il a appelé l'opération historique, ou dans un autre texte, l'opération historiographique. Donc, il n'était pas du tout de ce point de vue marginal, il ne prenait pas ses distances par rapport à ce qui se faisait. Mais il n'en restait pas là. Et face à une histoire qui réduisait en particulier la part de l'accident, de l'événement, il a été ultra sensible, au contraire, au ce qu'on pourrait appeler des émergences.
Au surgissement.
Oui. Alors, bien entendu, 68 est une date importante, d'abord parce qu'elle nous a tous concernés d'une manière ou d'une autre, et que c'était un événement, c'est pas le fait historique le plus important dans l'après Deuxième Guerre mondiale, mais c'était sous nos yeux. Et on a su ce que c'était qu'un événement. Une fois, c'est un événement qui peut-être dans une perspective historique plus longue est redimensionnée, mais sur le moment, c'était pas une taupinière, c'était une vraie montagne qui a transformé nos vies, nos manières de penser, et que de toute façon, il a fallu intégrer à notre manière de penser l'histoire. En France, la force du modèle Braudel-Labrousse, plus la prégnance du structuralisme, faisait que on s'était déshabitué de penser ce qui arrive. Et pas seulement l'événement, mais ce qui arrive et la manière dont ça arrive. Certeau a été l'un de ceux par lequel ce retour s'est fait. Il a ensuite été rejoint par d'autres. En 1971 ou 72, il y a eu un numéro spécial de communication dans lequel Edgar Morin, Nora et un certain nombre d'autres ont proclamé le retour de l'événement. C'était de l'ordre du programme, mais on voyait bien que quelque chose bougeait.
Et puis, il y a eu un grand moment, c'est celui de faire de l'histoire. 1974, un projet, disons, collectif, mené par deux personnalités assez différentes l'une de l'autre. Jacques Le Goff, d'un côté, donc, et de l'autre côté, Pierre Nora, que vous venez de citer, Jacques Revel. Et ce moment, faire de l'histoire, c'est le moment aussi où, d'une certaine façon, la discipline réfléchit à un moment donné à l'endroit où elle se trouve, à ce que sera son avenir, à ce qu'est son présent, à ce que peut être son avenir, en l'occurrence Jacques Revel.
Oui, mais elle le fait de manière plutôt triomphaliste. Bon, il se trouve que j'ai fait partie des auteurs jeunes de Faire de l'Histoire, mais bon, l'opération a été montée par des gens plus âgés, plus reconnus, mieux installés que nous ne l'étions. Il reste que la tonalité de Faire de l'Histoire, en 1974, c'est d'illustrer, à travers des choix auxquels on peut donner après coup plus de cohérence peut-être qu'ils n'en ont eu sur le moment, mais ça c'est le cas de toutes les œuvres collectives, c'était de montrer l'immensité du territoire de l'historien. Hein. Il y avait l'idée qu'on pouvait tout faire, et de fait, on inventait tous les mois des objets, des méthodes, des fronts pionniers. Il y avait une sorte de stratégie d'expansion.
D'optimisme aussi.
D'optimisme méthodologique et même un peu d'optimisme épistémologique, si le mot n'est pas trop fort, qui portait tout ça. C'était des années très généreuses. Et où le mouvement semblait pouvoir aller de soi. C'était exactement ce que dénonçait Veyne. Veyne, dans son livre, disait, au fond, l'histoire, elle procède par allongement du questionnaire. C'est-à-dire, on peut toujours trouver d'autres questions à ajouter aux questions qui ont été là, mais c'est pas ça qui fait une science. Deux versions qui ont, en gros, coexisté, sauf que la version Veyne est restée pendant longtemps inaudible ou peu entendue, alors que la version Faire de l'Histoire, prolongée par le livre que Le Goff, Chartier et moi avons publié 4 ans plus tard, qui s'appelait La Nouvelle Histoire, c'est un peu pompeux, il y avait l'idée que, en gros, tout était possible. À ce moment-là, ça n'était déjà plus vrai.
Oui, alors c'est cela qui est absolument extraordinaire. En l'occurrence, Jacques Revel, c'est que vous devenez donc responsable de la revue Les Annales en 1975. Et on vous confie donc cet héritage qui est un héritage glorieux. Et vous allez donc réfléchir à ce moment-là, en étant à la fois à la tête de ce navire qui est une grande revue d'histoire internationale, et aussi à voir arriver justement tous ces possibles, à ce qu'est la discipline dans ce milieu des années 70. Et comme vous le disiez très bien, c'est un moment glorieux. Il faut dire aussi que les tirages des livres d'histoire sont considérables, que Bernard Pivot vient d'arriver à la télévision, que le Nouvel Obs est un journal qui fait écrire de très nombreux historiens, dont vous et bien d'autres qui écrivent des chroniques sur les livres qui paraissent, et que l'audience de l'histoire est une audience assez remarquable. Donc il y a cette impression d'un âge d'or, des lecteurs qui plébiscitent les livres de cette nouvelle histoire, des historiens qui sont en ordre de marche, et des éditeurs qui veulent bien publier tout cela, relayé par la télévision et la presse.
Oui, c'est un curieux moment. C'est un moment un peu exceptionnel. Enfin, je dirais, si on cherchait des antécédents, on les trouverait au XIXe siècle, où l'histoire est devenue une matière publique, non pas l'histoire citoyenne ou civique à la Lavis, mais l'histoire que font les historiens de métier. Hein. Traditionnellement, le grand public s'intéressait à la petite histoire et les professionnels s'intéressaient à l'histoire savante. Ben, il y a eu, entre la fin des années 60 et le milieu des années 80, un moment sur lequel on peut d'ailleurs réfléchir, où un public élargi s'est intéressé à l'histoire que produisaient les historiens de métier. C'est, si on veut, le moment Montaillou.
Hein, donc, des centaines de
milliers d'exemplaires d'un livre de 700 pages qui raconte très bien la vie d'une communauté ariégeoise à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Et ils l'ont acheté parce qu'on leur en a parlé, parce qu'ils ont vu le roi la Duruchet pivot, parce que ceci, parce que cela.
Parce qu'on était aussi dans un moment de régénération, de mouvement régionaliste, en particulier occitan, qui pouvait, que c'était le Larzac, et qu'il y avait tout un tas de choses qui pouvaient aussi justifier qu'on s'intéressât à ce passé lointain.
Tout à fait.
Dans un combat contre une structure qui était l'Église à l'époque, mais qui pourrait être l'État dans les années 70.
Oui, on est effectivement dans l'après 68. Et l'après 68, c'est un moment où un certain nombre de valeurs qui étaient traditionnellement des valeurs de droite sont reprises en main par la gauche, voire par l'extrême gauche.
L'écologie en particulier.
La famille, les communautés, l'écologie, la ruralité, etc. Hein, l'autre best-seller de l'année 75, c'est Le cheval d'orgueil de Jacques Ézélias. C'est-à-dire l'exaltation de la Bretagne profonde, bretonnante, celle qui résistait à l'assimilation, même si Jacques Ézélias était un agrégé de lettres. Bon, il y a ce moment un peu ambigu, qui moi m'est resté très étranger, mais où la France s'est découverte rurale, enracinée, et où cherchant ses racines. Et il est certain que l'histoire que faisaient les historiens des annales répondait en partie à ce type de demande. C'est aussi le moment où Le Seuil commence à publier une histoire de la France rurale en 5 volumes. Bon, tout ça, ça fait partie de la même configuration. Plus largement, je pense que les annales ont servi un peu de symbole à l'émergence de cette sensibilité. Et au même moment, les annales ont trouvé une reconnaissance internationale qu'elles n'avaient jamais connue.
C'est à ce moment-là que vous allez vous apercevoir, en prenant cette revue, la direction de cette revue en 1975, Jacques Revel, que peut-être l'édifice est plus fragile qu'on ne le croit. On en parlera demain de ce paysage par gros temps qui se profile dans cette moitié des années 70. À demain, Jacques Revel.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Emmanuel Laurentin avec Jacques Revel. À voix nue, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Raymond Albouy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.